à visage découvert. L'émission qui dévoile la face cachée des politiques de ceux et celles qui vous représentent au sein des institutions de la République. À visage découvert, un rendez-vous mensuel proposé et présenté par Nadia Bey. C'est mercredi 19h et rediffusion samedi 11h sur Radio Orient.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et je suis très très ravie de vous retrouver sur Radio Orient et dans votre rendez-vous d'information spéciale municipale 2026 à visage découvert, un rendez-vous donc d'information où vous découvrirez avec nous, j'ai envie de dire, c'est justement le défi de cette émission, le vrai visage des candidats et candidates pour qui vous allez voter, que ce soit à droite ou à gauche. Et dans Visage Découvert, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui un candidat connu quand même, socialiste de la gauche unie sans la France insoumise pour Paris. Il s'agit d'Emmanuel Grégoire. Bonjour monsieur le député.
Bonjour.
Voilà, ravi de vous recevoir. Emmanuel Grégoire, on découvrira votre parcours dans un premier temps. Donc c'est la première partie, c'est un peu le format de l'émission. Et puis après, la bataille que vous menez pour gagner, bien sûr, Paris, une bataille, il faut le dire, très rude, mais malgré ça, vous êtes toujours en tête dans les sondages, c'est bien ça.
Tout à fait.
La gauche unie déterminée à garder Paris à gauche, malgré, on va dire, les 68% des Parisiens et des Français qui aspirent à une alternance. Reste à savoir si la dynamique électorale va opérer en leur faveur. Nous vous poserons la question. Votre bio, donc, elle est très dense parce qu'on va voir, vous avez occupé d'énormes responsabilités et des postes hyper importants à inscrire dans votre biographie. Emmanuel Grégoire, vous avez 47 ans, marié, père de 3 enfants. Vous êtes né au Lila, mais vous avez grandi loin de Paris, donc en Charente-Maritime. Après, donc, direction la ville de Bordeaux, où vous avez fait donc, vos études à Sciences Po Bordeaux. Vous avez baigné, il faut le dire, dans un milieu familial politisé. Père communiste, c'est bien ça ?
Oui, oui, tout à fait. Voilà. Très engagé.
Et très engagé. Voilà, un long parcours politique qui vous a amené à côtoyer, il faut le dire, les ténors de la politique au sein de cette formation politique qui a toujours compté dans ce pays puisqu'elle a été au pouvoir. Lionel Jospin, Bertrand Delanoë, pour ne citer que cela. Alors, Bertrand Delanoë, pour qui vous avez dirigé justement sa campagne en 2008, il vous renvoie aujourd'hui l'ascenseur puisqu'on l'a vu tracter à vos côtés. Et j'espère qu'on aura le plaisir de le recevoir ici à Radio Orient. Vous avez occupé des postes importants à l'Élysée, à Matignon, maire dans le 12e arrondissement, premier adjoint d'Anne Hidalgo en 2024, député de Paris. J'ajoute que vous avez remporté la primaire socialiste, c'est important de le souligner, pour ces municipales 2026, avec plus de 52%, corrigez-moi si c'est faux. Ce n'était pas le choix d'Anne Hidalgo, il faut le préciser, qui a préféré passer la main à Rémi Féro, mais les socialistes l'ont désavoué. Reste à savoir si vous, Emmanuel Grégoire, fort de cette union de la gauche, si elle va réussir ou pas à se démarquer du lourd bilan d'Anne Hidalgo. C'est tout l'enjeu, oui, c'est tout l'enjeu de cette bataille pour Paris. La question vous est posée. Je le disais, vous avez été aux commandes, aux côtés de la mère d'Anne Hidalgo. Vous êtes donc incontestablement l'héritier de son bilan, jugé par de nombreux observateurs, négatifs pour ne pas dire désastreux. Alors, la question qui s'impose, qu'est-ce qui va vous différencier des mandats d'Anne Hidalgo, Monsieur Grégoire ?
Alors d'abord, vous avez raison de rappeler deux choses. La première, je voudrais juste corriger un tout petit chose, c'est que mon enfance, elle est en Seine-Saint-Denis. J'ai vécu plus de 13 ans dans le 9-3, à Bagnolet et à Montreuil.
Oui.
Ce sont les bases de mes premières années de vie et je suis très attaché à ce territoire, au quartier populaire, à leur diversité. Ce n'est qu'à l'adolescence que je suis parti en pleine campagne en Charente-Maritime, ce qui m'a permis de goûter et aux joies de la ville et aux joies de la campagne.
Donc vous avez un pied dans la banlieue et un pied dans la ville.
Exactement, ouais. J'ai bien aimé évidemment les deux. Moi j'ai travaillé beaucoup avec Bertrand Delanoë, je travaille beaucoup avec Anne Hidalgo et ce que je sais c'est qu'on est tous très différents. On a nos caractères, on a nos priorités. J'ai beaucoup aimé travailler aux côtés de Anne Hidalgo. Je vous trouve sévère en jugeant le bilan désavoué et catastrophique, parce que ce n'est pas ce qui remonte. Il y a des choses sur lesquelles il y a une adhésion très forte sur la transition écologique de la ville, sur la transformation de la ville. Mais c'est vrai qu'il y a des insatisfactions.
Mais le chiffre lourd que tout le monde garde en tête, c'est la dette qui s'élève à 12 milliards.
Alors, ce n'est pas du tout 12 milliards. Comme
c'est
quoi,
c'est 12 ou 10.
Non, c'est 9,4 exactement. Mais donc, vous voyez qu'entre 9,4 et 12, il y a une grande marge. Mais c'est important de remettre les chiffres, et y compris parfois les fausses informations qu'à force de marteler, l'opposition dans ses mensonges a fini par rendre crédibles. D'abord, il y a des lignes de force sur notre action avec Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo, c'est qu'on est une équipe de gauche. Notre obsession à nous, c'est de nous occuper des plus fragiles, des plus vulnérables. Vous savez, Paris, c'est une ville merveilleuse, il y a plein de gens qui n'ont pas besoin de nous, ils vont très bien. Mais il y a des centaines de milliers de nos concitoyens qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'aide, et je veux à cet égard penser d'abord à ceux qui sont en précarité de santé, qui sont en précarité économique, qui sont au chômage, et aux aînés qui sont seuls, qui souffrent de cette solitude, de cet isolement. Et je pense aussi aux enfants, parce que c'est ça finalement la mission de gauche, c'est peut-être ça qui nous distingue fondamentalement de la droite. C'est que nous, on rêve d'une société dans laquelle on essaye d'emmener tout le monde. Mmh. Et que notre obsession à nous, c'est d'aider les familles, d'aider les mamans solo, d'aider les quartiers populaires pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'assignation, qu'il n'y ait pas d'exclusion, qu'il n'y ait pas de ségrégation. Et de faire en sorte d'avoir des politiques publiques qui s'adressent prioritairement à eux. C'est ça la
Emmanuel
différence fondamentale.
Grégoire, permettez-moi de vous dire que, j'ai envie de dire, ces promesses, on les avait déjà entendues avec Anne Hidalgo.
Bah, d'ailleurs,
alors,
on les
vous
n'avez
pas répondu justement à la question, qu'est-ce qui vous différencie d'Anne Hidalgo?
Ce qui me différencie, c'est peut-être la méthode. C'est-à-dire que moi, je suis un homme de dialogue, je suis un homme d'écoute, ouais. Je suis un homme d'hyper-proximité. Je suis très attaché à la dimension quotidienne de la fonction de maire. Il faut à la fois préparer les grands enjeux de l'avenir, les grands enjeux de dans 10 ans, 20 ans, 50 ans. Mais il faut s'occuper aussi, dans l'hyperproximité, des soucis de tous les jours. C'est le sujet, évidemment, de la tranquillité publique, de l'entretien de l'espace public, de la propreté, de la
c'est
sécurité.
C'est le maire du quotidien, on a entendu ça de la bouche d'Yves Bournazel.
C'est le maire du quotidien, sauf que moi j'ai eu l'occasion de le mettre en œuvre. C'est cela que je veux cultiver dans la méthode qui est la mienne, et cela sans m'épancher sur ce qui s'est passé avant. Moi, je vois bien qu'il y a une demande des habitants de Paris, qu'ils soient d'ailleurs des quartiers aisés ou des quartiers populaires, qu'on s'occupe un peu plus du quotidien, dans tous ces irritants de tous les jours, pour faire en sorte d'avoir une qualité de vie de proximité qui soit la plus agréable possible. Donc, c'est à la fois transformer la ville pour la rendre plus agréable, lutter contre la pollution, lutter contre le bruit, mais aussi trouver des
contre
espaces de loisirs.
Contre les saletés également, parce que ce qui revient de la bouche de tous les candidats, Paris est sale. On va revenir sur ça à vos souhaits, j'espère que vos souhaits vont se réaliser.
Exactement.
Mais non, dites-nous justement.
J'éternue beaucoup en ce moment, ça doit être bon signe.
Alors, bon, ben, vous savez, c'est le soleil avec l'Orient. Alors, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous gardez du bilan de Anne Hidalgo?
Écoutez,
qu'est-ce
d'abord,
que vous gardez
quelques grandes
qu'est-ce que vous prenez et qu'est-ce que vous rejetez?
Voilà, quelques grandes inspirations que je garde, c'est la question du soutien au logement.
Oui.
D'accord. Deuxièmement, du soutien au pouvoir d'achat.
Oui.
Le soutien à tous les réseaux associatifs de proximité qui protègent les plus fragiles. C'est les centres sociaux, les centres d'animation, les espaces de vie sociale, les associations de quartier qui font tenir nos quartiers, en occupant la jeunesse, en s'occupant des aînés, en matière de sport, de culture, de solidarité. Ça, c'est des lignes de force communes avec Bertrand Delanoë et avec Anne Hidalgo. Et l'inflexion que je veux donner, elle est sur la question de l'entretien du quotidien. C'est plus d'attention aux enjeux de propreté, de sécurité, pour faire en sorte que les grands chantiers de l'avenir ne se construisent pas, en tout cas dans le ressenti d'un certain nombre de nos concitoyens, au détriment de la qualité du quotidien, pour travailler, pour pouvoir circuler, pour lutter contre les incivilités. Et Paris, c'est une ville dans laquelle il y a beaucoup d'activités, c'est bouillonnant, et parfois ça crée des problèmes, et il faut que nous les réglions.
Alors, Emmanuel Grégoire, on se souvient que les JO 2024, justement à Paris était une belle vitrine. C'était une ville sécure, très propre. Pourquoi cela est juste occasionnel? Pourquoi ce n'était pas possible? Alors, et pourquoi ce n'est toujours pas possible que Paris doit briller parce que c'est une grande capitale et qui reste la destination la plus prisée dans le monde.
Exactement. D'abord, arrêtons de nous jeter du sable sur la tête. Le monde entier aime Paris, le monde entier adore Paris et Paris n'est pas la seule grande ville du monde qui est confrontée à ces phénomènes. Je veux dire, quand vous allez à Londres, quand vous allez à New York, il y a aussi...
La question des jeunes, elle est en haut du palmarès.
Je ne crois pas. Non, pas du tout. En matière de propreté, une ville comme New York a beaucoup plus de difficultés que Paris. Beaucoup, beaucoup plus. Simplement, c'est différent de la voir de loin et d'y vivre au quotidien.
Ouais.
Deuxième sujet, sur les JO, il y a un défaut d'interprétation. Parce que à ce moment-là, il y avait beaucoup de monde pour les JO, mais il y avait beaucoup de monde tout court. Et c'est toujours plus simple en août à Paris que le reste de l'année où il y a tout le monde qui travaille, etc. Et ensuite, ce qu'a démontré les JO, c'est que quand on mobilise les pouvoirs publics de façon massive, police, propreté, entretien, pompiers, gendarmes, militaires, etc., eh bien oui, c'est efficace sur le terrain. Et l'un des je pense que c'est un moyen de démontrer qu'en mettant plus de services publics, et pas moins, comme le proposent les autres candidats à Paris, en particulier Mme Dati, c'est pas en mettant moins de moyens dans le service public qu'on améliore l'efficacité du service public.
La privatisation de certains services, en l'occurrence.
Oui, enfin la privatisation, ou même tout simplement les baisses de moyens qui sont annoncées par nos adversaires. Mmh. Et ça se traduira par des problèmes immense dans les quartiers populaires, parce qu'ils ont un soutien immense de la ville. La ville, c'est un tiers de ses investissements va dans les quartiers populaires. Ce sont des endroits où nous mettons beaucoup plus de moyens qu'ailleurs. Et c'est un choix politique parce que nous savons qu'ils en ont plus besoin. Eh bien ça, c'est un choix structurant de droite ou de gauche. Est-ce qu'on emmène tout le monde? Est-ce qu'on s'occupe de tout le monde? Ou est-ce qu'on laisse tomber les plus vulnérables avec une forme de discrimination sociale qui m'est insupportable? Nous assumons notre tropisme en faveur des quartiers populaires. Nous allons continuer à les aider puissamment.
Alors, votre principal adversaire, vous venez de citer son nom, c'est Rachida Dati, qui dit que Grégoire, c'est Anne Hidalgo en pire. Quel est votre commentaire?
Je la laisse à ses invectives et à ses insultes. C'est à peu près la seule chose qu'elle sait faire. Donc, je ne m'intéresse pas à ça. Et je vais vous dire, il y a un truc que j'ai appris dans ma longue vie politique, c'est qu'il faut avoir le cuir épais et ne pas s'émouvoir de ce genre de choses. Je la laisse vociférer. J'y suis totalement indifférent. Moi, ce que je veux, c'est parler aux Parisiens du projet qu'on a à leur proposer, du logement, du pouvoir d'achat, de l'environnement, de la question des mobilités, de l'attractivité économique, comment on crée de l'emploi dans notre ville. C'est ça mon sujet, et pas de faire des commentaires sur Dati, et encore moins de l'insulter. Monsieur... Je me garde toujours de l'insulter. En démocratie, il faut faire attention à respecter ses adversaires, et c'est ce que je fais, moi.
Avoir respecté, mais vous n'êtes pas indifférent, vous ne pouvez pas être indifférent, justement, à vos adversaires, et à votre principal adversaire, à savoir Rachida Dati, puisque, bon, elle creuse l'écart, elle est à 30, vous êtes à 30, 32, justement.
Oui, enfin,
commentaire
l'écart.
Sur les derniers sondages. Elle remonte.
Oui, elle remonte. Enfin, elle a beaucoup baissé. Et oui. Encore une fois, les sondages, il faut les prendre avec prudence. La réalité,
c'est un baromètre aussi. Hein.
Oui, ouais. C'est un baromètre qui devrait donc me rassurer, puisque je suis en tête depuis maintenant plusieurs semaines, alors que pendant des mois, elle a été en tête. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en dynamique, mais je veux dire qu'il y a une gravité du moment. Le choix va être de devoir arbitrer entre une ville qui continue à être gouvernée par la gauche ou une ville qui est gouvernée par la droite et ses complaisances vis-à-vis de l'extrême droite, voire même l'hypothèse d'une alliance entre la droite et l'extrême droite. Pensez-vous sincèrement que dans les quartiers populaires, qui sont des quartiers cosmopolites, qui sont des quartiers de brassage culturel et sociologique historique, c'est ce qui a fait la force de notre ville. La force de notre ville, c'est d'avoir été une terre d'immigration dans l'histoire et d'avoir su construire ces histoires positives. Que de confier cette ville à la droite la plus réactionnaire n'aura pas d'incidence sur la vie des quartiers. Ce sera évidemment des politiques de ségrégation, des politiques de discrimination à l'endroit de ces quartiers populaires. Et je veux le dire, ceux qui sont contre cela, ceux qui en ressentent, y compris dans leur vie quotidienne, la menace, doivent aller voter. Parce que s'ils ne vont pas voter, ce seront les autres qui choisiront à leur place.
Alors, votre électorat, vous le connaissez, j'ai envie de dire, mais aujourd'hui, les sondés aspirent à une alternance à droite. Quel est votre commentaire par rapport
à ça? Je ne crois pas ça.
Rejetez en bloc tous les sondages. Là. C'est quand même 68% des Français qui aspirent à une alternance. Parce que pour eux,
68% des Français. Moi, je m'intéresse beaucoup à la vie des Français. Mais enfin, ce qui m'intéresse, c'est surtout la vie des Parisiens. Et en l'occurrence, ce n'est pas ce que disent les sondages. Ils aspirent à une nouvelle page, incontestablement.
Un changement.
Ils aspirent à un changement. Et j'incarne ce changement. sur les listes que nous présentons, il y a plus de 50%.
Vous ne semblez pas dire que justement ces sondés sont un petit peu fatigués par les 25 ans de gauche à la tête de la mairie de Paris?
Je ne crois pas, je ne crois pas.
Vous n'intégrez pas ça dans votre analyse?
Non, pas du tout, je ne partage pas du tout ça.
Oui.
De la même façon qu'Anne Hidalgo a incarné une nouvelle page, aujourd'hui ils veulent une nouvelle page. Et donc nous incarnons cela avec plus de 50% de renouvellement sur nos listes. Moi-même, je suis un nouveau visage de la vie politique nationale, va être très, très clair. Moi, vous savez, je monte les marches des escaliers les unes après les autres. Je n'ai jamais fait de politique nationale. Toute ma vie politique a été exclusivement dédiée à Paris. Parce que j'aime cette ville passionnément, j'aime ses habitants passionnément. Je suis prêt pour exercer la fonction, je m'y suis préparé depuis très longtemps. Et je veux incarner cette nouvelle page, c'est, je crois, au-delà de l'alternance, surtout ce qu'attendent les Parisiennes et les Parisiens.
Donc une nouvelle page, une nouvelle histoire dans Paris avec
c'est exactement
la gauche
ça, une nouvelle
unie,
histoire.
Sans LFI. Vous allez nous dire comment ça va se faire et comment vous avez construit cette gauche unie qui est une très belle affiche. Merci de rester avec nous.
Vert. L'émission qui dévoile la face cachée des politiques de ceux et celles qui vous représentent au sein des institutions de la République. À visage découvert, un rendez-vous mensuel proposé et présenté par Nadia Bey. C'est mercredi 19h et rediffusion samedi 11h sur Radio Orient.
Rebonjour, vous êtes bien à l'écoute des programmes de Radio Orient. Et Radio Orient, bien sûr, vous savez, dans le cadre des municipales, à visage découvert, reçoit les candidats et candidates à droite comme à gauche, qui vous permettra justement de mieux choisir les personnes ou les candidats qui sont à l'écoute. Les candidats, donc les maires du quotidien, comme le disait à l'instant notre invité, monsieur le député de la gauche unie, Emmanuel Grégoire, rebonjour.
Rebonjour.
Alors, on le disait tout à fait au départ, une dette abyssale, vous l'avez corrigé en disant c'est pas 12 mais c'est 9, mais quand même...
Elle n'est pas du tout, pardon, mais elle n'est pas du tout abyssale.
Vous dites qu'elle n'est pas abyssale.
Pardon, mais excusez-moi, vous reprenez là un parfait fake news de la droite. Cet argument de la dette abyssale, c'est l'argument, d'abord venant de gens qui ont ruiné le pays,
oui.
Ruiné le pays, au passage. Si le pays était géré comme la ville de Paris, tout irait très bien. Deuxièmement, c'est le procès des gens de droite qui n'acceptent pas que nous utilisions l'argent public pour le redistribuer à ceux qui en ont besoin.
Parlons-en justement de l'argent public, Emmanuel Grégoire. On a vu les scandales qu'il y a eu, puisque c'était publié dans toute la presse, à savoir les frais de représentation, c'est énormissime.
Alors, c'est pas énormissime. D'abord, je n'en ai pas moi à titre personnel, que vos auditeurs l'entendent. Jamais je n'ai eu à titre personnel de frais de représentation. Jamais.
Ouais, ouais.
Je ne suis pas concerné par cela, moi, ouais. À titre personnel. Deuxièmement, j'ai pris des engagements pour les réformer. Et ces frais de représentation, ils sont parfaitement légaux. Parfaitement légaux. Et tous les maires de France...
Même quand ils sont excessifs, ils sont légaux?
Mais c'est pas excessif. Ils sont définis par la loi. D'accord? Et leur application dans les mairies. Tous les maires de France sont concernés. Alors moi, je veux bien qu'on en accable uniquement Anne Hidalgo. Tous les maires de France sont concernés. Tous. D'accord? Enfin, pardon. Tous les maires des grandes villes. Parce que dans les toutes petites villes, il n'y en a pas.
Mais vous reconnaissez qu'il n'y a qu'une une gabegie dans la gestion des deniers publics, là, l'argent des contribuables?
Ce mot me choque profondément. Il n'y a pas de gabegie dans les deniers publics.
Ouais.
Vous donnez des exemples. Les gens croient que j'ai une voiture. Ils croient même parfois que j'ai un logement de fonction. Moi, je n'ai rien de tout ça. Je prends le métro. Je suis quelqu'un de normal. Voilà. Et tout ça venant de donneurs de leçons qui cumulent depuis des années des mandats, des activités professionnelles à côté. Moi, vous savez, j'ai été élu en 2014. Le jour où j'ai été élu, j'ai décidé de m'y consacrer exclusivement, de ne faire que ça. Là où beaucoup d'élus continuent à avoir des activités à côté, y compris qui défraient la chronique, pour Madame Dati. Un certain nombre de nos élus ont été épinglés sur des achats. Je vais vous donner un exemple.
Donner des exemples, justement, j'allais enchaîner avec ça, parce qu'effectivement, les Parisiens sont indignés et scandalisés par, justement, des maires qui s'offrent des repas à plus de 800 euros de l'argent public.
C'est jamais arrivé à Paris, c'est jamais arrivé.
Oui, aussi des personnes qui se permettent de passer chez le...
Excusez-moi d'être un peu ferme. Oui. Ce n'est jamais arrivé avec un maire de gauche à Paris, jamais. Quand vous dites ça, excusez-moi, c'est diffamatoire. Jamais un maire de gauche n'a fait ça. Tout est vérifié sur facture. Sur facture. Les montants les plus importants, on parle de quelques dizaines d'euros par personne lors de repas. Et il s'agit d'un sujet d'indépendance. Quand vous êtes sollicité, que vous êtes...
Les 10 000 euros de pressing, c'est aussi du fake news, là?
Pour les candidats
de gauche... On ne veut pas citer le nom du maire. Hein.
Mais citez-le.
Non, non.
Citez-le.
Oui, Éric Lejoindre. Voilà,
non,
le 18e.
Je ne crois pas que ce soit 10
pressing,
000 euros.
Enfin, on annule dans la presse. Hein.
Mais c'est,
je veux dire,
c'est, montants,
c'est aussi
montants,
du fake news. Hein.
C'est des, oui, pardon, mais vous relayez des choses qui sont fausses. Qui sont fausses. Là, en plus, c'est 10 000 euros. Je ne crois pas du tout que ce soit 10 000 euros pour Éric Lejoindre. Et deuxièmement, c'est sur des années et des années. Tout est contrôlé à la facture près. Et je le redis, je n'en ai jamais bénéficié à titre personnel. Et pourquoi vous ne citez que Éric Lejoindre, en l'occurrence, et pas les maires de droite qui sont concernés aussi.
Non, mais on peut
les
le citer
scandales
aussi,
les plus.
Hein.
Ouais, profitez-en pour le préciser. Ouais, alors,
ouais.
Les candidats
a,
qui ont
on
été.
On a un socialiste sur le plateau, on profite de l'occasion pour vous poser des questions à vous,
non,
justement,
mais,
pour les excès.
Oui, mais vous me demandez des explications
des maires,
sur un sujet
de gauche.
Qui ne me concerne pas.
Oui.
Deuxièmement, est-ce que c'était légal? La réponse est oui. Est-ce qu'il faut le réformer? La réponse est oui, je l'ai dit.
La réponse est oui. Alors comment réformer ça, ben justement se, ça c'est la bonne question.
Plus de contrôle, plus de transparence et moins d'argent dépensé.
Oui.
Et donc moi j'ai dit, par exemple, quand il y a des repas, juste pour qu'on comprenne, quand un maire d'une grande ville, parce qu'un arrondissement, c'est souvent aussi grand qu'une très grande ville de France, d'accord? Soit vous vous faites inviter, soit vous invitez. Et l'une des règles de ces frais de représentation, c'est de permettre à des maires de ne pas se faire inviter, d'être indépendant
oui.
en toutes circonstances.
Oui.
Les frais de représentation, c'est comme des notes de frais
oui.
pour n'importe quel salarié.
Est-ce qu'il y a des
privé.
Plafonds? Est-ce qu'il y a un barème? Est-ce que justement, vous allez réformer
oui.
ça?
La
Alors,
réponse
comment
est oui,
dites-nous.
Il y a déjà un barème. Oui, il y a déjà des contrôles.
Voilà.
Et troisièmement, je vais réformer ça avec des enveloppes plus réduites. Et deuxièmement, un contrôle et une transparence stricte. Mais je ne peux pas accepter qu'on mette dans le même sac des élus qui, d'un côté, ont respecté les règles et les nôtres ont respecté les règles. Peut-être qu'il faut revoir les règles.
Ouais.
J'ai dit que je le ferais. Mais ils ont respecté les règles telles qu'elles avaient été définies. Et de les mettre dans le même sac d'élus, et en l'occurrence, je prends Mme Dati à dessein, qui, elle, étant renvoyée en correctionnel au tribunal, avec le risque d'être condamnée à de la prison, à quel moment de confusion on arrive à mélanger tout à ce point pour, vous savez, c'est la théorie de bon, quand il y a une affaire, vous se faites en créer une autre pour diluer et entre guillemets, disperser l'attention. À mes côtés, il y a des gens dont la probité est démontrée. Démontrée. Que l'opinion s'émeuve de pratiques anciennes. Que, encore une fois, jamais je n'en ai bénéficié à titre personnel.
Ouais.
Je le comprends et donc on le réformera. Mais je n'accepte pas non plus la confusion du « ah oui, non, mais c'est tous pourris, c'est tous louches, etc. » Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui respectent les règles
oui.
et ceux qui ne respectent pas les règles, il y a des inspections, il y a des enquêtes policières, le cas échéant, et ils peuvent être renvoyés en correctionnel pour corruption au tribunal.
Alors justement,
mais
nos auditeurs
ne
veulent
pas les gens
savoir
dans le même sac,
aujourd'hui
ce ne serait pas juste.
Ce que Emmanuel Grégoire incarne, la probité, l'intégrité, l'honnêteté.
Oui.
Parce qu'il faut le dire, vous avez un déficit de visibilité. Beaucoup de gens ne vous connaissent pas suffisamment. Donc justement, un message par rapport
c'est parce que
à ce que
gagne,
vous êtes.
Moi,
comment vous vous définissez?
Du premier jour où j'ai été élu en 2014, moi j'ai d'abord travaillé longtemps dans le privé. J'ai
ouais.
une première vie professionnelle d'une grosse dizaine d'années dans le privé. À partir du moment où j'ai décidé de me mettre au service de la collectivité,
ouais.
j'ai arrêté toute activité professionnelle à côté.
Très bien.
Je publie ma déclaration de patrimoine et de revenus depuis 15 ans maintenant.
Très bien.
Tous les ans. Donc les gens ils peuvent voir quel est l'état de mon compte en banque puisque tous les ans je produis ma déclaration de patrimoine. Ils y verront que la politique, je n'en ai pas fait pour m'enrichir. Voilà. J'ai un patrimoine très modeste, parce que je suis élu et que je vis correctement, hein, comme tous ceux qui sont élus dans des grandes villes. Je suis un candidat normal. C'est-à-dire, j'ai une relation normale à l'argent. Je ne touche pas d'argent, d'ailleurs. Je n'ai pas de relation d'affaires et donc pas, je suis totalement libre. Je n'ai pas d'influence. Et je cultive cela, d'abord parce que ça me permet de bien dormir, mais deuxièmement, parce que la probité en politique est quelque chose qui est essentiel. Vous savez, moi, si un jour j'ai adhéré au Parti Socialiste, j'étais de gauche, mais je n'étais pas adhérent encore, mais c'est précisément parce qu'un homme m'avait beaucoup séduit, c'est Lionel Jospin,
oui.
parce qu'il incarnait une rigueur morale.
Tout à fait.
Je crois qu'il y a une demande de rigueur morale. Et moi, je veux que les Parisiens, ils soient fiers de leur maire, ils soient fiers de moi, que j'incarne de la transparence, de la constance, de la rigueur. Alors, je ne suis pas parfait, hein, sans doute j'ai quelques défauts, mais je veux qu'ils soient fiers de moi, c'est-à-dire d'un maire qui s'occupe d'eux et qui n'occupe pas les tribunaux, qui n'occupe pas la presse people, etc. Je veux m'occuper d'eux et je veux qu'ils sachent que je suis disponible pour cela et que j'incarne une liberté, une indépendance totale au regard des intérêts d'argent, etc. Parce que c'est là qu'est ma mission et c'est là qu'est aussi la façon dont je m'enthousiasme de l'exercice des responsabilités.
Emmanuel Grégoire, l'invité aujourd'hui de à visage découvert. Il nous reste 5-6 minutes, Alexandre, justement, avant de terminer, mais les questions sont encore nombreuses. Et alors, justement, l'affiche de la gauche unie, dès le premier tour, elle est historique et elle fait craindre aussi vos adversaires, Monsieur Grégoire. Vous n'avez pas cessé de marteler que l'alliance avec la France insoumise ne se produira jamais. Pourquoi ?
Bon, pourquoi ? Parce qu'il suffit d'écouter la France insoumise. Sophia Chikirou dit...
Que nous avons reçu, d'ailleurs.
...dit qu'il ne faut plus qu'il y ait une maire socialiste à Paris. Donc, ça veut dire qu'elle soutient implicitement la candidature de Dati. Et Jean-Luc Mélenchon me traite d'infâme Grégoire. C'est-à-dire qu'il m'insulte à longueur de temps. Alors, mon masochisme ne va pas jusque-là. Je ne veux pas travailler avec des gens qui ne veulent pas travailler avec moi. Et je le dis parce que, notamment, c'est un enjeu municipal. Le sujet d'une alliance au municipal, c'est s'accorder sur une vision partagée. Notre priorité à nous, c'est le logement, la transition écologique de la ville, s'occuper des quartiers populaires, et pas retomber dans le discours pro-bagnole qui a été celui de Sophia Chikirou.
Mais surtout, vous disiez la même chose en disant moi, c'est pas Paris des milliardaires, c'est le Paris populaire. Bon, vous allez vous rejoindre.
Bah, on est de, c'est oui, quand même, on est de gauche.
Okay. Vous êtes de gauche, vous n'avez pas à dire que LFI, c'est extrême droite, quoi.
Non, ça ne m'a pas traversé l'esprit. Donc non, on est de gauche, donc évidemment, il peut y avoir des sujets sur lesquels on a des résonances. Mais en l'occurrence, vous l'avez vous-même entendu dire qu'elle ne voulait plus qu'il y ait de maire socialiste.
Ouais.
Et pourquoi ? Parce que la LFI, la France Insoumise, parfois, ses dirigeants, moi je ne mets pas tout le monde dans le même sac, ses dirigeants ou un certain nombre de ses dirigeants confondent les enjeux. Leur enjeu là, ce n'est pas la municipale, leur enjeu c'est de préparer les élections présidentielles.
Ouais.
Et à cet égard, le fait qu'il y ait un maire socialiste à Paris...
Ça va impacter la présidentielle.
Est un irritant pour eux dans la stratégie nationale de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il l'a dit ainsi. Eh bien, je suis désolé, on ne sacrifie pas les quartiers populaires de Paris pour l'intérêt présidentiel de M. Mélenchon. Chaque chose en son temps. La priorité là, c'est de protéger une vision de Paris, sa mixité sociale, sa diversité, protéger... notamment les 25% de Parisiens qui ne sont pas nés en France de la menace de l'extrême droite, ce qui, on le voit, peut se traduire parfois par de la violence physique, peut se traduire par du racisme, par des discriminations, par de l'antisémitisme. Ça m'est insupportable et je veux être un maire protecteur.
Dans un maire protecteur, justement. Est-ce que vos listes, alors parlant de vos listes, est-ce qu'elles reflètent justement cette sociologie électorale de Paris ? Alors dites-nous, est-ce qu'il y a des têtes de liste qui sont issues de la diversité, parité, diversité ? Qu'en est-il exactement ? Dites-nous.
Oui, alors d'abord, je le dis avec beaucoup de plaisir, puisque Karim Ziadi est à mes côtés
ici. Avec nous.
Il est notre tête de liste dans le 17e arrondissement. Et sur nos listes, oui, nous avons veillé à avoir de la diversité qui représente Paris. C'est important que la classe politique ait des visages qui représentent à la réalité des habitants.
Ce n'est pas de la diversité gadget, comme le disait son entre antenne Rachida Dati.
Non, ce n'est pas de la diversité gadget, c'est laquelle se trompe. C'est de la diversité démocratique.
Mais quand vous mettez des candidats de la diversité dans des arrondissements qui ne sont pas gagnables, c'est quoi ça ?
D'abord, il n'y a aucun arrondissement qui n'est pas gagnable, et en l'occurrence dans le 17e. Dans le 17e, nous nourrissons les plus grands espoirs, je le dis devant Karim. Et deuxièmement, là, moi, j'ai la responsabilité de ma liste en centrale. La liste des 163, vous savez que les gens vont devoir voter deux fois. Une fois pour leur arrondissement
ça
et une fois.
Ça va nous goûter, oui.
Et le cœur de la machine, c'est la mairie centrale avec son exécutif. Et nous avons à cet égard de très nombreux possibles, issus non pas de la diversité, parce que ce mot, je l'aime pas, issus de la réalité sociologique de nos quartiers. C'est des quartiers cosmopolites qu'on connaît par cœur.
Issus de
l'immigration.
Oui, issus de l'histoire de l'immigration de la France.
Enfin, ils sont les visages de Paris.
Oui.
Voilà. Et c'est à ce titre qu'ils sont sur mes listes. C'est pas pour être gadget, c'est pour que nous ayons une liste qui soit à l'image des Parisiens, en particulier de ceux que l'on veut défendre.
Parfois, on a l'impression que même la gauche, pour la diversité, il leur faut la petite touche cosmétique.
Écoutez, d'abord, vous avez raison. Personne n'est à l'abri de pouvoir faire mieux, c'est sûr. Mais nous, cette liste-là, elle a beaucoup de profils issus de la diversité qui sont appelés à avoir de grandes responsabilités à mes côtés.
Citez-nous d'autres arrondissements dans l'exécutif. Dehors du 17e.
Il y a plein d'autres arrondissements, dans le 18e, dans le 20e, dans le 19e, dans le 13e, dans le 14e. Nous avons un représentant de la communauté asiatique, de la communauté kurde, de la communauté arménienne. Nous avons des gens qui sont de partout. Et d'ailleurs, je ne veux pas réduire...
Sauf sur Radio-Orient et l'Orient, vous l'avez oublié.
Il m'en voudrait.
Le Liban, l'Iran.
On pourra vous faire la liste précise des profils de nationalité.
Ouais.
J'en ai ressenti
Vous ne
25,
prenez pas les mêmes et vous recommencez, 25. En fait. Il y a de nouveaux visages issus de la société civile. Est-ce que c'est
a,
cela aussi
Il y a aussi des visages. D'abord, je vous le dis, beaucoup des militants.
On a l'impression qu'il y a une reproduction du système, que c'est des clubs fermés, les formations politiques.
Vous avez raison que c'est un risque tout le temps. Et donc, il faut y faire attention. Mais aussi dire que les militants qui sont dans les appareils politiques sont aussi des acteurs de la société civile. Ouais, il n'est pas rare qu'ils soient eux-mêmes engagés dans les syndicats, engagés dans les associations, engagés dans leur quartier, etc. C'est pas d'un côté les méchants militants et de l'autre côté les bons sociétés civiles. C'est un brassage et c'est intéressant précisément quand les deux sont réunis, y compris pour des raisons de formation, parce qu'on ne s'improvise pas élu. Pour être élu, il faut aussi connaître un peu les institutions, leur fonctionnement, si on veut être, si on veut être le plus efficace possible. Nous avons une liste qui est à l'image des visages de Paris, en particulier des quartiers que nous voulons défendre. Et parce que nous avons veillé non seulement à la représentation de la diversité sociologique, mais surtout de la diversité territoriale. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent de tous les quartiers de Paris, et vous les découvrirez au fur et à mesure ces visages. Ils sont d'abord souvent très connus dans leur quartier, parce que ce sont historiquement des acteurs associatifs, hein, généralement de leur quartier. On est très fiers de cela.
Une minute pour conclure, justement, vous avez dit, c'est une nouvelle page, une nouvelle histoire qui va commencer si vous êtes élu à la tête de la mairie de Paris. Quel est le message que vous voulez adresser aujourd'hui sur notre antenne à l'auditoire de Radio Orient ? Alors, juste peut-être qu'on a oublié la parité, parce que le mois de mars, c'est quand même le mois du 8 mars, la journée internationale pour les droits des femmes. Est-ce que vous avez un message particulier, justement? Qu'est-ce qui fait que, justement, on va voter Grégoire et non pas Dati?
En une minute. D'abord, la parité, c'est essentiel, mais c'est surtout obligatoire sur les listes municipales. Donc, on aura autant d'hommes que de femmes élus, hein, probablement, et au moins sur la liste centrale au Conseil de Paris. Deuxième chose, les femmes font l'objet d'une attention très particulière dans le projet. Je ne peux pas le détailler, mais allez voir sur notre site internet. Il y a des sujets majeurs. La question de l'accompagnement des mamans solo. Oui. La question de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans l'espace public.
Voilà, absolument.
La reconnaissance du rôle des mamans dans les quartiers pour accompagner la jeunesse, les encadrer et nous aider, nous, la force publique, à être plus efficace dans les politiques publiques de proximité. Peut-être le message essentiel, c'est que cette élection est un moment extrêmement critique pour notre ville. Il va y avoir un choix de société, un choix de vision pour l'avenir de Paris, qui sera incarné par moi ou Rachida Dati, parce que ce sera elle ou moi le maire, dans lequel est-ce qu'on veut continuer à avoir une ville ouverte, respectueuse, cosmopolite, qui respecte et qui est fière de sa diversité. Moi, je suis fier des quartiers parisiens. Ils ont des problèmes. Il faut les aider, mais c'est pas en les abandonnant qu'on va régler les problèmes, c'est précisément en s'en occupant encore plus. Et moi, je veux être fier de cette ville qui a une histoire migratoire extrêmement riche, qui a tant apporté à l'économie, à la culture de notre pays et au rayonnement de sa capitale. Je veux être fier des quartiers, je veux porter cette fierté des Parisiens, je veux que les Parisiens soient fiers de leur maire et de leur équipe municipale, comme on l'évoquait à l'instant. Et de l'autre côté, on a une alliance de la droite et de l'extrême droite qui fait peser une menace majeure pour un grand nombre de nos concitoyens. Il y a 25% des Parisiens qui ne sont pas nés en France. Il y a 1 sur 2 à des ascendances immigrées. C'est énorme. Et je ne peux que comprendre leur inquiétude face au nuage un peu sombre qui s'amoncelle au-dessus de nous.
Et avant de mettre un point final, justement, vous nous avez toujours...
Je serai un maire qui les protégera en toutes circonstances contre les menaces, que ce soit celles des menaces économiques et des menaces de la spéculation, mais aussi des menaces plus fondamentales qui ont trait à la liberté de vivre, à l'égalité et à la lutte contre les discriminations.
Ça aurait pu être le point final à cette interview, mais une question, puisque vous n'avez pas répondu à cette question, à savoir avec qui vous allez faire l'alliance plutôt dès le deuxième tour.
Il n'y aura pas d'alliance de deuxième tour, notre liste de premier tour sera notre liste de deuxième tour.
Pas d'alliance.
Non, il n'y aura pas d'alliance. Parce qu'il n'y aura pas d'alliance avec LFI et nous ne souhaitons pas faire d'alliance avec la droite. Donc ce sera notre combat. Nous sommes un collectif politique qui a suffisamment de force désormais pour envisager la victoire au deuxième tour.
Oui. Vous avez une réserve.
Absolument.
Très optimiste, notre invité ce matin, Emmanuel Grégoire. Merci d'être venu dans nos studios pour nous parler de vos programmes. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous allez encore découvrir, il reste encore 2 semaines avant le premier tour. Et les lignes vont certainement bouger. Merci d'être venu dans nos studios.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Merci à vous, Alexandre, justement, pour la réalisation. À visage découvert, excellente écoute.
À visage découvert, L'émission qui dévoile la face cachée des politiques de ceux et celles qui vous représentent au sein des institutions de la République. À visage découvert, un rendez-vous mensuel proposé et présenté par Nadia Bey. C'est mercredi 19h et rediffusion samedi 11h sur Radio Orient.